Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain.
Le sportif. Il
y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant les 700, on te dit tu viens jouer à l'Université de Montréal, you're gonna compete with the best, against the best, tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plugged in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Le.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue au terrain sportif tous les lundis, 10h30 jusqu'à midi. AM, bien entendu, sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, bien entendu. Également en rediffusion tous les lundis soirs à CFAC, 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, de 20h à 21h30. Avec nul autre que moi-même, je me nomme Wissem Bensta au micro pour la prochaine heure et demie. Cette semaine à l'émission, on a beaucoup de contenu. On revient en force, bien entendu, puisque la semaine dernière, c'était journée fériée, donc j'ai décidé de prendre off, bien entendu, puisque vous savez, l'émission continue à l'année longue, donc quand il y a des petites journées de congé comme ça, j'essaie de les prendre. Et cette semaine, on va y aller avec des actualités sportives et une entrevue, bien entendu. Et on aura de la musique avec vous, des nouveautés francophones, bien entendu, du palmarès CSM notamment. On va écouter du Bon Enfant et du Totalement Sublime, qui sont deux artistes qui sont respectivement numéro 1 et numéro 2 au palmarès francophone de CSM, bien entendu. Donc, à l'émission cette semaine, eh bien, on va parler de quoi? On va tout d'abord parler du gala de boxe du groupe Yvon Michel mettant en vedette là, Mazloum Akdeniz. Ça se passait jeudi le 16 mai au cabaret du Casino de Montréal. Et encore une fois, on remercie le groupe Yvon Michel de nous permettre de suivre ces événements. C'était vraiment un gala incroyable, même si, on va en parler dans quelques minutes, il manquait quelques boxeurs. Mais bon, ça arrive, là, c'est hors de contrôle, bien entendu, des organisateurs, bien souvent. Également, plus tard en émission, on va y aller avec une entrevue avec Anaïs Arlandis, qui, elle, est une nageuse avec les Carabins de l'Université de Montréal, qui a remporté plusieurs honneurs cette année, plusieurs médailles. On lui a parlé il y a de ça environ une semaine. Eh bien, cette émission, on aura son entrevue, puisque la semaine dernière, comme vous le savez, là, il n'y avait pas d'émission. Donc, elle va nous parler de ses rêves, de son parcours, de sa fin, bien entendu, avec les Carabins en tant qu'athlète des Carabins, bien entendu. Donc, Anaïs Arlandis en émission avec vous. Également, CF Montréal, il y avait un match mercredi soir contre Forge au stade Saputo. Et également, samedi soir, donc il y a de ça deux jours, il y avait un match à domicile en MLS. On va parler de tout ça. Puis on sait, là, Olivier Renard, le directeur sportif du CF Montréal, a quitté. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent côté CF Montréal. Certains médias en raffolent, bien sûr, quand les choses ne vont pas très bien avec le club. Et ici, au terrain sportif, on en parle en bien, on en parle en mal, mais on en parle puisqu'il y a toujours du positif et du négatif dans chacune des situations. Et là, on a deux matchs en milieu de saison, donc plus de matchs maintenant ces temps-ci au mois de mai qu'au début de la saison, puisque vous le savez, là, le CF Montréal a joué ses 6 premiers matchs l'extérieur du Stade Saputo. Ils avaient pourtant bien commencé, mais depuis quelque temps, là, il y a eu un peu une grosse pente descendante. Et là, on va voir si cette semaine, on était capable de remonter cette pente côté CF Montréal. Également, on parle de l'Alliance de Montréal, puisque le premier match de la saison à domicile, ça s'en vient. Le 30 mai, l'Alliance de Montréal sera en action et ça va se passer chez nous du côté de l'Auditorium de Verdun, à Verdun, non loin du centre-ville de Verdun, de la rue Wellington. On va parler qui sont les joueurs vedettes, qui sont les entraîneurs, est-ce que les entraîneurs sont déjà arrivés, combien coûtent les billets. On va faire une petite analyse du début de saison à venir côté Alliance de Montréal. Mais pour commencer, Ah oui, et avant de terminer le tout, on sait, on parle pas trop ici de sport mainstream, de ligue mainstream, dis-je bien, au terrain sportif, puisque tout ce qui est ligue nationale, NBA, ça a déjà énormément de couverture, donc on en parle un peu moins ici, beaucoup moins d'ailleurs, mais on peut vous dire que la finale de la Coupe Stanley, ça va commencer là dans les prochaines semaines, mais les deux finales de conférence, eh bien, c'est Edmonton contre Dallas et également ce sont les Rangers de New York contre les Panthers, les Florida Panthers. Également, les Voltigeurs de Drummondville ont remporté le trophée des présidents le trophée Mario Cecchini, le trophée Gilles Courteau, pardon, je crois qu'il s'appelle aujourd'hui, contre le Drakkar de Bécomo. Ça s'est terminé là par 4 matchs à 0, tout simplement. J'ai assisté au troisième et honnêtement, je dis pas ça parce que c'était vraiment la finale. Le match au centre Marcel Dionne, le troisième match auquel j'ai pu assister, ça a été de loin, de très loin, par 30, 40, 50 fois, le match avec le plus d'ambiance que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et ça se passait, mesdames et messieurs, du côté de Drummondville, à environ une heure de la ville de Montréal. Donc, félicitations aux Voltigeurs de Drummondville. Équipe qui a d'ailleurs gagné son premier titre de ça, là, il y a environ 15 ans, avec nul autre que Guy Boucher, qui était l'entraîneur là, adjoint des Maple Leafs de Toronto, également entraîneur en chef là, des Sénateurs d'Ottawa durant une époque, et du Lightning de Tampa Bay. Donc, maintenant, on va commencer avec la carte. Côté Jim, qu'est-ce qu'on avait? On avait en vedette, bien sûr, le combat des super légers de 10 rondes, Mazlum Mazhakdeniz de Longueuil, qui est invaincu en 19 matchs, maintenant en 20 matchs, puisqu'il a battu Sébastien Ezequiel Aguirre. Ça a été un match quand même à sens unique, plus ou moins. L'Argentin n'a pas été en mesure de rivaliser avec Akdeniz. Il a montré beaucoup d'attitude, si on veut, beaucoup. Il a essayé même de le narguer par moment en voulant dire que ses coups lui faisaient pas mal, mais reste en bout de ligne qu'il n'a jamais été dans le coup. Et c'était une défaite pour l'Argentin qui vient de Comodoro Rivadavia. Et on sait, la très grande majorité des Argentins là, au niveau athlétique, notamment au soccer, viennent souvent de la région de Buenos Aires, qui est la capitale là, de l'Argentine. Mais lui, il vient de la Patagonie, donc je trouvais ça quand même intéressant. Donc, ils se sont taquinés pendant tout le combat. C'était amusant, mais c'était pas non plus le meilleur combat. Là. Il n'y a pas eu de knockout, malheureusement. Et Mazlum Mazhakdeniz l'a emporté en 10 rondes. Non pas par KO technique, mais par décision des juges avec le résultat final. Également, Kim Clavel, la chouchou québécoise dans les Mimouches. Ça a été un combat de 10 rondes contre Catherine Renee Lindemuth de Albuquerque au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Eh bien, Kim Clavel l'a emporté. Ça a été un combat plus serré. Et ça a été, depuis que je suis là, le groupe Yvon Michel et que je vais à leur gala, ça a été un des plus beaux combats que j'ai vu. La petite Catherine Renee Lindemuth, qui est petite de taille, on s'entend que Kim Clavel là, non plus, c'est pas la plus grande au monde. Eh bien, elle a quand même posé beaucoup de problèmes. Elle a porté beaucoup de coups à son adversaire, Kim Clavel, mais malgré tout, suite à la carte des juges, eh bien, Kim Clavel l'a emporté en 10 rondes. Encore une fois, ça a été un combat qui a duré durant 10 rondes, donc les spectateurs ont pu en avoir pour leur argent. Côté, il y a eu deux combats qui ont été annulés, je tiens à le mentionner. Stéphane Fongio de Montréal devait se battre contre John Akurigo du Ghana, de Accra plus particulièrement. Eh bien, le combat a été annulé pour des causes de haute pression dans les jours qui précédaient le combat. Donc, John Akurigo n'a pas pu combattre. Et donc, bon, c'est plate pour les spectateurs, pour ceux qui ont payé leur billet, puisqu'évidemment, il n'y a pas de remboursement. Mais le fait est que, bon, la santé des boxeurs, c'est beaucoup plus important que l'entertainment. Et donc, au risque qu'il puisse se passer quelque chose de non désirable, c'est déjà arrivé sur une ring de boxe que des athlètes décèdent. Les médecins ont décidé, bien sûr, que c'était mieux pour le bien de John Akurigo de ne pas combattre contre Fongio en ce 16 mai 2024. Autre combat annulé, eh bien, c'était Abed El Safadi qui était invaincu là, en 6 matchs, si je ne m'abuse, en 6 combats. Eh bien, le combat a été annulé puisque son adversaire a eu des problèmes de papier. Et on sait, Abed El Safadi, il amène beaucoup de monde au cabaret du Casino de Montréal, beaucoup d'ambiance. Vraiment, là, ça gueule de partout. Donc, c'était un peu. Ça l'a manqué quand même au gala de boxe. Le gala de boxe, soit dit en passant, il n'a pas terminé plus tôt, il a juste commencé plus tard. Donc, quand même, ça a été un gala qui a duré jusqu'au environ 10h, 10h30. Et également, il y a eu Winner Bondo de Montréal qui s'est affronté contre Todor Petrov. C'était un combat, selon moi, qui n'était pas du tout égal. Le Bulgare n'était pas prêt à affronter Winner Bondo. Ça a été quand même une victoire facile pour le Québécois de Montréal, qui faisait d'ailleurs ses débuts professionnels, lui qui fait partie du club de boxe Montréal, Carl Handy et Stéphane Larouche. Donc, le jeune Bulgare n'avait pas l'air confiant. Il y avait seulement fait un combat avant ce match, et puis il avait perdu le combat. Et on savait dès le départ là, qui allait perdre dans cette catégorie des super légers 4 rondes. Eh bien, c'est Winner Bondo qui a remporté le tout. Et ça a quand même été jusqu'au 4e round, donc encore une fois, pas de KO. Il n'y a pas eu de KO dans ce gala de boxe. Le dernier combat qu'on a vu, c'est-à-dire le deuxième, c'était Théotilus Owosu contre Zachary Loiseau, deux Québécois, un de Pierrefonds, un de Montréal. Donc, ça a été une victoire de Owosu avec la carte des juges. Un combat quand même agressif là, pour les super légers d'environ 140 livres chacun. Et Théotilus Owosu a donné beaucoup de coups. Zachary Loiseau a résisté, mais malgré tout, c'est Owosu qui prend la victoire. Et donc, le gala de boxe était quand même dans une salle qui était presque pleine. Les gens étaient là. Il y avait les tables VIP étaient remplies et tous les locaux, c'est-à-dire les locaux qui jouaient contre des non-Québécois, ont gagné. Ça se passe souvent comme ça là, dans des galas de boxe. La dernière fois que j'ai vu au Québec que ça n'a pas été dans ce sens-là, ça a été avec Jean Pascal qui a perdu contre l'Allemand. Ça se passait du côté de la Place Belle et ça a été le dernier combat de Jean Pascal. Mazloum Akdeniz l'a gagné contre l'Argentin. Ça, c'était le combat vedette de la soirée. Kim Clavel contre l'Américaine l'a emporté. Owosu l'a emporté contre Loiseau. Et Winner Bondo l'a emporté contre le boxeur, de la Bulgarie. On va écouter en entrevue, là, j'ai des entrevues pour vous dans quelques instants puisqu'on a réalisé ça après les galas de boxe, notamment de Kim Clavel, de Zachary Loiseau, de Théo Owosu et de Akdeniz. Ça sera des entrevues écourtées, bien entendu, là, puisque sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Faites à noter le prochain gala du groupe Yvon Michel, puisque là, ces temps-ci, il y a beaucoup de galas. Il y a Eye of the Tiger également qui sont présents. Eye of the Tiger, malheureusement, avec qui je n'ai pas encore d'accréditation, mais quand même, on me répond, j'apprécie. On me répond en me disant que malheureusement, dû aux places disponibles, au peu de places disponibles, qu'une accréditation pour CISM et CFAQ ne sera pas possible. Et moi, je respecte tout à fait ça, puisque c'est à eux de décider à qui ils donnent des accréditations ou pas. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place sur la galerie de presse. Le prochain 20 mai, donc le 20 juin prochain 2024, Marie-Pierre Hull sera en combat principal d'un gala de boxe pour la première fois de sa carrière. Et ça sera contre Carla Ramos Zamora, qui sera en ville pour affronter la Québécoise Ramos Zamora qui vient de Mexico City, qui est âgée de 30 ans. Et Marie-Pierre Hull, bien entendu, qui est québécoise. Donc voilà, ça met un terme à cette petite rubrique de boxe québécoise avec le gala du groupe Yvon Michel. On va y aller en musique maintenant avec deux chansons là, de Soleil encabané de Totalement Sublime et Trompe-l'œil de Bon Enfant. Puis ensuite, au retour, eh bien, ce sera les entrevues d'après combat que j'ai réalisé avec certains autres collègues journalistes en direct du cabaret du Casino de Montréal. Bonne écoute et bougez pas. De retour sur les zones de CSM et de CFAQ, on vient entendre la chanson « Soleil encabané » de Totalement Sublime, une chanson qui reste dans le palmarès francophone de CSM, dans le top 5, et avant ça, c'était « Trompe-l'œil » de l'artiste Bon Enfant. Bien sûr, deux nouveautés francophones pour vous sur les ondes des radios universitaires CSM et CFAQ. CSM, bien entendu, la radio universitaire la plus grande au monde francophone, bien entendu, et CFAQ, la radio de l'Université de Sherbrooke. Maintenant, on va y aller en entrevue avec les trois athlètes, une après l'autre, puisque bientôt, ce sera la pause publicitaire. On va y aller avec Pour commencer, Théotilus Owosu, très gentil d'ailleurs, Monsieur Owosu. Ensuite, ça va être Kim Clavel et pour la fin, ce sera Mazloum Maz Akdeniz. On commence par Théotilus Owosu, qui est d'origine ghanéenne et qui, dans son uniforme de combat, bien sûr, arborait très fièrement le drapeau du Ghana et aussi celui du Québec. Donc, les racines et les origines, une formule à moi qui me plaît bien. Donc voilà, on écoute les entrevues et on revient après ceci.
C'est ça.
Puis qu'est-ce qu'elle représente, cette victoire, ce soir, pour toi? Est-ce qu'elle a une saveur particulière?
Oh, très bien, oui. Bonne question. En fait, c'est parce que les gens, je dirais, de Montréal, tout le monde s'évite. Alors, pour moi, je pense que c'est un bon call-out pour les gens de les locales pour qu'on se bat entre nous, puis on arrête d'emmener les Mexicains, puis dans d'autres pays, qu'on peut se battre entre nous.
Oui, ouais. Donc plus de combats locaux.
Ouais, c'est un peu comme c'est passé il y a quelques temps avec Shaquille Finn puis Rick Bazanian.
Ouais.
Ça, c'était un très beau combat, malgré le vol, mais c'est juste qui arrive.
Bonsoir, Kim.
Bonsoir, merci beaucoup. Merci.
Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir pour toi?
Je pense vraiment à ma vitesse, travailler en combinaison, essayer de faire mon step back, passer sur les côtés. Et c'est difficile quand tu as quelqu'un qui marche toujours sur toi. Mais on a fini... par faire ce qu'on voulait, on a gagné le combat.
Dans un
de
petit
manière
ring, très
assez
petit
décisif,
ring.
Ouais.
T'es-tu laissé déconcentrer un peu par son manque d'activité? Tu sais, à un moment donné, tu parlais avec les commentateurs.
Non, je faisais juste une mise. Je vois comme t'es dans un. C'est pas un combat amateur. C'est pas un gala amateur, c'est un gala professionnel. Il faut plaire la télé, il faut plaire les personnes qui écoutent, il faut plaire les médias. Il faut être un artiste, il faut être un showman, puis c'est comme ça que tu vends des billets. Puis oui, parfois, ça peut avoir l'air de comme, manque de classe, mais absolument pas. Je suis avec les gars avec beaucoup de respect. J'ai même tenu le drapeau du gars à la fin du combat dans sa photo. Alors, non, c'est vraiment pas une question d'être cocky ou whatever. Puis ouais, c'est ça, j'ai envie qu'il lance un peu plus pour pouvoir lancer plus de counter, puis peut-être aller chercher un combat avec quelques knockdowns ou quelque chose comme ça. Mais bon, je suis content de la performance, puis non, j'ai pas été distrait du tout. Au contraire, j'étais alerte. Si tu vois Mayweather, il parle au commentateur en combat, puis il est 100% alerte. Moi, j'attendais qu'il lance des coups pour montrer ma défense, parce que tout le camp d'entraînement avec Josh Taylor, j'ai juste pratiqué ma. Pardon. J'ai juste boxé de reculons à la Jack Catterall. Alors, les gars ont pu lancer 100 coups, puis je pense que.
Voilà, donc pour terminer, c'était Mazloum Akdeniz qui parlait, bien entendu, du fait qu'il parlait avec les commentateurs, puis c'est un peu de plaire à la foule. Il ne faut pas non plus capoter avec ça. Là. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du show. Il y a certains journalistes qui, avant la mêlée de presse, avant le scrum, comme on dit, pour pouvoir poser des questions, étaient en désaccord avec ça. Et moi, tout simplement, ben, je ne partage pas cette opinion parce que la boxe, c'est un show et on a besoin de gens comme ça pour mettre un peu de couleur, mettre un peu d'ambiance dans les stades, dans les arénas, sur les terrains, etc., etc., etc. Donc voilà, on s'en va en pause publicitaire et en musique et on revient après ceci. C'était l'excellente chanson 5AM de Brown Family. Et maintenant, sur ce, on s'en va en entrevue avec Anaïs Arlandis, la nageuse des Carabins de l'Université de Montréal. Nous sommes donc avec Anaïs Arlandis. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce, Anaïs?
Oui, c'est comme ça.
On prononce le « c'est parfait ». Donc, Anaïs Arlandis, comment est-ce que tu vas aujourd'hui?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Donc, Anaïs, tu es l'athlète féminine de l'année avec les Carabins de l'Université de Montréal en natation et tu es une étudiante en maîtrise de l'éducation. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Parfait. Donc, je vais commencer avec toi comme je commence avec tous mes invités. Trois questions très simples comme pour chaque intervenant. Tu viens d'où? Tu as grandi où? Et tu es allé à quelle école au secondaire?
Alors, je viens de France, donc j'ai grandi en France, je suis à Montréal juste depuis 2018. J'ai pas fait le secondaire parce qu'en France, c'est pas comme ça qu'on appelle, mais c'est ça, mon collège, je l'ai fait en France.
OK. Puis dans quel coin à peu près est-ce que tu as...
J'habitais vers Troyes, donc dans le nord-est de la France, à 3 heures de Paris, pendant jusqu'à mes 15 ans, et ensuite à Nice, sur la Côte d'Azur.
La Côte d'Azur, OK. C'est pas pire, hein?
Ouais.
C'est là. Et puis, juste pour un peu pour nous éduquer un peu, comment est-ce que ça fonctionne, le système là-bas, le primaire, secondaire, c'est quoi les noms, puis c'est de quel âge à peu près?
Pour les âges, je pense que c'est assez similaire. Nous, on va à l'école à 3 ans, donc c'est 1 an plus tôt qu'ici. Mais c'est ça, c'est l'école primaire. Ensuite, c'est le collège. Donc, j'imagine que le collège, c'est l'équivalent du secondaire ici. Et après, on va au lycée. Et le lycée, je pense que c'est un peu comme le cégep, avant de rentrer à l'université.
Est-ce que le lycée est obligatoire pour tout le monde ou non?
Le lycée, je crois bien que oui.
OK. Donc, OK.
Ouais.
Parfait. Intéressant. Puis, parle-nous de ton parcours dans le monde de la natation. Ça a commencé quand et comment?
Ça a commencé quand même très tôt. J'ai fait plusieurs sports avant d'arriver à la natation. Mes parents voulaient que j'essaye enfin, plusieurs sports. Finalement, ils se sont vite rendus compte que c'est la natation qui m'intéressait le plus. Et je pense que je fais des compétitions depuis mes 8 ans.
8 ans.
Ouais, là j'en ai bientôt 27, donc ça fait un petit peu.
OK. Puis est-ce que tu savais dès ton jeune âge, est-ce que tu aimais ça? Est-ce que tu... J'imagine que oui, parce que tu le fais encore, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a
Oui.
des gens qui font des sports avec la pression, des parents,
Des
tout ça. Toi,
parents.
est-ce que tu aimais la natation? Tu te sentais bien dans l'eau?
Ouais, vraiment, la natation. Bah, j'ai toujours aimé être dans l'eau, je m'amusais beaucoup. Au début, c'était vraiment juste des cours pour apprendre à nager. Et rapidement, ceux qui me coachaient, on voyait que j'avais du potentiel. Donc, ils m'ont inscrit à mes premières compétitions et j'ai pris goût au fur et à mesure. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc, ouais, non, j'adore la natation.
OK. Excellent. Puis petite question, curiosité générale. Ici au Québec, il y a beaucoup de mais pas tout le monde, mais beaucoup de gens, c'est très commun d'avoir des piscines dans sa cour arrière de la maison. Là-bas, est-ce
Ouais.
que à Nice, est-ce que ou en France en général, je sais que c'est un très gros pays, là, donc c'est peut-être
Ouais.
différent selon les endroits. Est-ce que c'est quelque chose de très commun d'avoir une piscine dans sa cour ou c'est vraiment les gens très riches qui peuvent se le payer?
Je pense pas que c'est nécessairement les gens très riches, mais c'est sûr que c'est plus commun d'avoir une piscine dans sa cour à Nice que là où j'habitais dans le Nord.
Okay.
Je pense vraiment. À Nice, c'est vraiment, ouais. Je pense que pas mal de monde ont une piscine dans leur cour, effectivement. Mais je pense pas que c'est dans toute la France pareil. J'imagine que ça dépend des endroits. Dans le sud, il fait souvent chaud, il y a du soleil.
Oui.
Donc les piscines découvertes sont plus nombreuses. Mais dans le nord de la France aussi, j'imagine que c'est peut-être les plus riches, effectivement, qui ont des piscines.
OK, excellent. Puis cette année, avec qu'on va parler maintenant de ton passage avec les Carabins, juste pour dire à nos auditeurs, cette année, tu as gagné 2 médailles d'argent nationales. Donc ça, c'est parmi toutes les
Ouais.
athlètes canadiennes.
C'est ça.
50 mètres et 100 mètres papillon. Ça, le papillon, c'est quoi exactement, le 50-100 mètres papillon? Est-ce que c'est la vitesse tout simplement ou...
50 et 100 mètres papillon, c'est du sprint. Dans le fond, 50 mètres en grand bassin, donc en bassin de 50 mètres, c'est juste une longueur. Donc on plonge et on a juste à faire l'aller. Et le 100 mètres, c'est l'aller-retour, donc c'est deux longueurs. Ça.
OK, parfait. Et puis, cette année, tu as été là élu dans la première équipe d'étoiles du RSEQ, deuxième au pays, 2 médailles d'argent à U-Sport, comme je l'ai dit, et 6 médailles au championnat du RSEQ. C'est la fin de ton parcours universitaire. Et donc, comme question d'introduction, comment est-ce que se sont passées tes années avec les Carabiens et Carabiens avec les Carabins? Est-ce que ça s'est bien passé? C'est un lapsus. Et est-ce que tu veux nous parler de ça un peu, de comment ça a commencé, comment ça se termine, etc.?
Oui, bien sûr. Ça a très, très bien commencé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis venue ici et j'avais besoin de changer d'air. Je progressais plus trop à Nice, là où je m'entraînais. Et dès la première année, mes temps sont tout de suite descendus. J'ai pris beaucoup de plaisir. L'esprit d'équipe, ça m'a aussi beaucoup apporté à prendre confiance en moi aussi. Et donc, la première année, c'est vraiment très bien passé. J'étais recrue de l'année Carabin, d'ailleurs. RSEQ aussi. J'ai fait vraiment des bons temps. Ensuite, il y a des nageurs qui ont arrêté de nager. Donc, ça a été comme une nouvelle année vraiment, un nouvel apprentissage, une nouvelle personne avec qui je m'entraînais. J'ai changé d'entraîneur cette année-là. Donc, ça a été aussi beaucoup d'adaptation. Finalement, ça s'est super bien passé aussi. Les 2 premières années se sont vraiment bien passées. Ensuite, il y a eu le Covid. Et donc, là, ça a commencé à être très, très compliqué. On n'avait plus le droit de s'entraîner. Enfin, c'était vraiment la galère. Et donc, les années qui ont suivi, ça a été difficile en fait de retourner à l'entraînement. Le corps suivait plus trop. Il fallait vraiment reprendre l'intensité après des mois d'arrêt, alors qu'on a l'habitude de nager tous les jours. C'était super difficile. Donc, mentalement, ça a été difficile. On a eu des conditions aussi difficiles au niveau de notre piscine parce qu'elle a été en travaux. Donc, on changeait de piscine quasiment tous les jours. Enfin, c'était dans des petites piscines, pas vraiment. C'était pas des conditions optimales pour la performance. Donc, on a eu comme 2 ans assez difficiles. Mais cette année, on a quand même réussi à très, très bien finir avec l'arrivée d'un nouveau coach. Donc, je finis vraiment très bien ma carrière. Donc voilà, ça a très bien commencé, il y a eu un creux, puis on finit correctement.
OK, excellent. Puis, est-ce que tu as accompli tes objectifs que tu t'étais donné quand tu es arrivé ou est-ce que tu n'en avais pas vraiment particulièrement?
Oui, j'en avais beaucoup et j'en ai réussi plusieurs. C'est sûr que le Covid, ça a éteint quelques rêves que j'avais. Mais non, je suis très fière de ce parcours. Je regrette rien, genre vraiment. C'est comme ça, la vie, on ne sait pas ce qui se passe et puis on verra avec. Donc, non, je regrette rien, mais très, très beau parcours.
Excellent. Génial. Puis, est-ce que tu as été capable, parce que là, tu fais une maîtrise, donc j'imagine, je ne sais pas si tu as fait un bac,
Ouais.
le bac ici, là, au Québec, tu as fait un bac en éducation, puis là, tu as fait une
Non,
maîtrise.
j'ai fait un bac en psychologie.
OK.
Ensuite, je suis allée en maîtrise en psychoéducation. Il y a eu le Covid, j'ai dû rentrer en France, donc j'ai arrêté ce programme-là. Et quand je suis revenue, ben, je suis allée en maîtrise en éducation. Et là, ça fait 3 ans que je
OK.
fais ça.
On va en reparler de l'éducation à la fin de
Ouais.
l'émission. J'ai quelques questions pour toi par rapport à ça. Mais pour revenir, est-ce que toi qui es une athlète et une athlète de haut niveau, parce que tu fais des parties des championnats canadiens, tu te déplaces, comment est-ce que tu as réussi à concilier les études et en même temps les compétitions et surtout les entraînements? Comment ça se passe exactement?
C'est sûr que l'envie de venir ici, c'est surtout aussi parce qu'en France, même en Europe, je dirais, le sport n'est pas aussi important c'est pas du tout la même culture que la culture nord-américaine. Et ici, le sport vraiment prend une grosse, grosse place. Et quand on est étudiant athlète, on est quand même très valorisé, on est soutenu par les carabins, par l'université. Donc, au baccalauréat en psychologie, j'avais le choix de mes horaires de cours. Donc, je faisais en sorte de pouvoir les mettre dans la journée, je nageais le matin, je nageais après mes cours, donc ça c'était top. Après, avec la maîtrise, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était des horaires de soir, le samedi aussi toute la journée, donc ça me faisait des grosses semaines. Et quand j'ai commencé à travailler aussi, ça me faisait vraiment des grosses journées parce que je nageais le matin, j'allais travailler, je nageais le soir, j'avais cours parfois, donc des très grosses semaines. Mais c'est la rigueur, je nage depuis mes 8 ans, je suis habituée à jongler entre les deux. Je suis très, très organisée. La rigueur que m'a apportée la natation, je pense que c'est ça qui m'a permis de pouvoir gérer toutes les sphères de ma vie, je pense.
Excellent, très très bonne réponse, réponse complète. Tu te lâches plus lousse que la dernière fois qu'on a parlé, là, t'as vraiment plus de. T'as beaucoup de choses à dire maintenant que c'est la fin,
Ouais.
tu as parlé d'une chose qui a attiré mon attention, pardon, puisque moi, quand j'ai été en Europe, j'étais à l'université, puis je me rappelle très bien qu'il n'y avait pas d'équivalent de carabin très
Ah
populaire.
non.
Et quand tu parles de le sport est plus important ici, est-ce que tu parlais au niveau universitaire seulement ou tu parlais dans la société en général?
Je pense que ça se rejoint. Je pense que même à l'école primaire, le sport n'est pas assez valorisé. Je pense que depuis tout, je pense que dès le plus jeune âge, il faut valoriser le sport. Et je pense qu'en France, c'est en train de se développer, mais ça a longtemps été ouais, pas très important. Et je pense que c'est très important, au contraire. Même pour les enfants qui sont en primaire.
OK, excellent.
Ouais.
Puis là-bas, en fait, si tu es à l'université à Nice, il n'y a pas de possibilité pour toi de compétitionner puis en natation.
Oui, il y a des possibilités. Après, c'est que c'est plus difficile de lier études et sport de haut niveau parce qu'il n'y a pas tant d'aménagement. Il n'y a pas beaucoup d'écoles en France qui te permettent de réaliser ton projet professionnel et ton projet sportif. C'est en
OK.
train de se développer, mais on est vraiment en retard par rapport à
OK.
ici, par exemple.
Oui, là-bas, bon, on sait, là, en Europe, généralement, le sport numéro un, c'est le foot. Bon, il y a handball, un peu basketball, mais natation, c'est sûr que
Ouais.
c'est moins populaire. Puis, comment est-ce que je peux dire ça? J'ai l'impression qu'ici, au Québec, au Canada, c'est beaucoup plus, peut-être inclusif pour les athlètes féminines dans le sport. Est-ce que tu trouves ça un peu ou t'es pas d'accord?
Pas que je suis pas d'accord, mais je pense que le monde entier est en train de s'ouvrir là-dessus. Et je pense qu'on même en France, c'est vraiment en train de se développer. Je pense que vraiment le monde entier ouvre les yeux, puis ça fait son chemin un peu partout, je pense.
Ça fait son chemin. OK, excellent.
Ouais.
C'est bon. Puis, question comme ça, j'y ai pensé en écrivant en faisant mes questions. Est-ce que l'eau, tu portes une affection particulière à l'eau en général? Est-ce que ça représente quelque chose pour toi de un symbole ou je sais pas?
C'est pas tant un symbole, mais c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Là, je parle pas forcément de l'eau dans une piscine parce que,
Oui.
vu le nombre d'heures que j'ai passé dedans, c'est pas quelque chose qui m'apaise tant, mais la mer, l'océan, c'est vraiment même un lac simplement ou un cours d'eau, c'est quelque chose, le bruit, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me rassure, et rien que le fait d'être dans l'eau, c'est vraiment, je me sens dans mon élément. Je sais pas si c'est étrange à dire, mais ouais. J'étais dans l'eau depuis que je suis petite et c'est vraiment quelque chose où je me sens bien, un endroit où je suis bien.
Non, c'est ça. Ben, c'est beaucoup de gens pensent comme toi, donc c'est tout à fait comprenable. Est-ce que être dans l'eau aussi souvent que ça, est-ce que ça peut avoir des pas des conséquences sur la santé, mais des petits pépins comme je sais pas les oreilles à force d'avoir tout le temps de l'eau qui et puis tout ça. Est-ce qu'il y a des comment on appelle ça l'otite du nageur? J'ai
Ouais,
oublié
les
le nom là.
otites.
Les otites, c'est ça.
Ouais, les otites. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'otites quand j'étais jeune. Je pense pas que c'était un rapport avec la natation, mais c'est sûr que ça aidait pas parce que être toujours dans l'eau, ça aide pas du tout. Je faisais des otites à répétition. Je me suis même fait opérer des tympans. Mais je pense juste que j'étais fragile des oreilles à l'époque et depuis, j'ai plus du tout d'otites
OK.
depuis très, très longtemps. Ça dépend, j'imagine, du système de chacun, là. Mais le seul inconvénient que je dirais, c'est les cheveux secs, la peau sèche.
Ah ouais.
Ouais, puis on sent le chlore. Puis j'imagine que d'être autant d'heures dans une piscine fermée avec autant de chlore, peut-être qu'à long terme, c'est pas tant bon non plus pour les poumons, etc.
OK.
Mais il n'y a pas tant d'études là-dessus pour le moment.
Donc l'odeur du chlore, elle reste sur toi souvent, même après la douche, puis tout ça, tu
Ouais,
sens le
mais
chlore.
moi, je la sens plus. Nous, les nageurs, on la sent plus parce que c'est une odeur qu'on a l'habitude
OK.
on fait plus attention, mais c'est vrai que quand on nageait le matin, que ce soit au collège, au lycée, même ici, quand on va à l'université, ah ouais, t'es allé nager ce matin. Les gens le sentent, quoi, c'est.
Ouais, OK.
Ouais.
Ah, c'est intéressant tout ça. J'ai été sur un site internet tout à l'heure qui s'appelle World Aquatics. Puis j'ai écrit ton nom, Anaïs Arlandis, puis j'ai vu en fait que tu as fait énormément de compétitions. Je ne sais pas, tu compétitionnais pour qui, mais est-ce que c'était pour la France? C'était en ton nom personnel? C'était.
J'ai toujours nagé pour des clubs en France. J'ai changé plusieurs fois de club. Actuellement, je suis licenciée au club de Monaco et j'ai eu justement l'occasion de faire les Jeux des petits États l'été dernier. C'est une compétition avec seulement les petits États du monde. Donc, il y a Monaco, Luxembourg,
Vatican.
Malte. Ouais.
OK. Il y avait le Vatican était là.
Il me semble pas,
Non.
mais ça dépend peut-être des années. Je sais pas.
OK. Puis bon, donc si je comprends bien, tu as habité à Monaco?
Je n'ai pas habité à Monaco, mais Nice, c'est juste à côté, donc
OK. C'est combien de temps de route à peu près?
ça dépend vraiment quand il y a du trafic, c'est un enfer, mais sinon c'est pas tant loin, en 20-30 minutes.
Ok, ouais. Puis est-ce qu'il faut passer la douane, montrer. Oh non,
Non.
c'est l'espace Schengen, hein?
Ouais, il n'y a pas de douane, rien.
Ok. Puis comment. Parce que j'ai regardé, tu as été au Qatar, tu as été à Malte, Monaco, France, Espagne, Pologne, Japon, Danemark, Belgique,
Turquie aussi, il me semble.
Turquie, ok, Istanbul?
Non, c'était. Je me souviens même plus du nom, mais c'était pas Istanbul.
C'est pas Istanbul, ok.
Non.
Comment est-ce que tu fais pour aller dans tous ces endroits-là? Parce que, bon, c'est de l'avion, c'est du train, comment est-ce que ça se passe?
C'est avion très très souvent. Quand c'est des compétitions avec les clubs, c'est souvent les clubs qui payent le voyage, qui payent les hôtels. En fait, en France, là-dessus, c'est vraiment un gros plus justement par rapport à ici, où ici, il faut vraiment débourser de sa poche. En France, c'est vraiment les clubs qui déboursent pour les voyages. Quand on est en sélection d'équipe de France, c'est l'équipe de France qui paye tout. Donc, en fait, j'ai jamais rien payé quand j'étais en France. Je paye une licence au début de l'année, mais c'est rien comparé à tout ce qu'on nous offre.
Ah, ok. C'est combien, c'est
Ouais.
pas indiscret, environ une licence pour.
Je me souviens juste celle que j'ai eue à Nice, je pense que c'était entre 400 et 600 euros. Puis quand tu arrives à un certain niveau, parfois tu n'as même plus de licence à payer.
Ok, excellent. Et maintenant que c'est terminé avec les carabins, est-ce que tu entrevois de continuer ta carrière dans le monde de la natation, éventuellement peut-être pour vivre de ça, ou quel
Non.
est ton point de vue par rapport à ça?
Vivre de ça, c'est vraiment déjà très, très compliqué, même je pense pour ceux qui gagnent des médailles olympiques en France, du moins, c'est vraiment pas très, très bien payé. Justement, je pense avec le manque de valorisation, je pense que ça va avec. Donc moi, non, je peux pas vivre de ça, c'est sûr. C'est pour ça que je me suis assurée d'avoir un avenir professionnel à côté. Par contre, continuer à nager, c'est encore en hésitation en ce moment. J'aimerais peut-être pouvoir encore m'entraîner avec les carabins l'année prochaine, encore un an, avec les partenaires que j'ai depuis des années, pour finir sur justement les Jeux des petits États avec Monaco l'été prochain, qui clôturerait vraiment ma carrière de natation, pas seulement universitaire, mais civile.
Ok, d'accord. Donc tu serais invitée même si tu n'es plus étudiante
Ouais.
là-bas. En fait, tu fais plus partie des carabins quand même
Non, je
pour tout
serais
ce que tu as donné.
Ouais, je ne ferai plus de compétition universitaire, mais je suis autorisée si je le veux, puis si je respecte les conditions, là, que je puisse m'entraîner avec.
Ouais, c'est une belle marque de reconnaissance, pareil, hein? Et est-ce que tu as déjà cru à peut-être représenter la France aux Jeux Olympiques, ou ça, depuis le début, tu t'es dit non, c'est trop difficile, ou...
Je pense que très jeune, j'ai été poussée par mes parents, par mes coachs, vu que j'étais très tôt. J'ai eu des belles performances très jeune. Et je pense qu'à force de l'entendre autour de toi, tu y crois un petit peu. Et au fur et à mesure, j'ai eu des années, vraiment, je progressais vraiment beaucoup. Des années aussi plus difficiles où je stagnais et je perdais confiance en moi. Donc, toute ma carrière, en fait, ça a été vraiment beaucoup de haut, beaucoup de bas, beaucoup de doutes, de remises en question, etc. Et je pense qu'à un moment donné, quand je suis arrivée chez les Carabins, mon but premier, c'était de me faire plaisir. Et de voir où ça me mène. Et les jeux, petit à petit, c'est quelque chose qui n'était plus dans les plans, je dirais. Donc, j'ai déjà pensé, j'ai déjà représenté la France à de nombreuses compétitions. J'ai fait plusieurs équipes de France. C'était une grande fierté. Les Jeux Olympiques, c'est plus du tout d'actualité.
OK. Et tu viens de le mentionner, tu as voyagé beaucoup dans beaucoup d'endroits. Est-ce que tu as un endroit où est-ce que particulier, mis à part la France que tu connais très bien, qui a été un coup de cœur pour toi, où est-ce que tu t'es dit, waouh, cet endroit-là, je l'ai adoré, peut-être même j'aimerais y vivre, ou etc.
C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé grâce à la natation. Je pense que si j'ai des coups de cœur, c'est en termes de compétition, pas tant d'endroits, parce que finalement, j'ai voyagé beaucoup pour les compétitions, mais à part la piscine, peut-être une après-midi où on se balade, on voit pas vraiment grand-chose.
OK.
C'est sûr que Tokyo, c'était quelque chose d'assez impressionnant, de visiter la ville, etc. Y vivre, non, je m'y vois pas. Si je vis pas en France, ça serait au Canada.
OK. Ah,
Donc,
c'est
ouais.
fair enough. Puis le Japon, tout le monde qui va dit qu'il tout le monde qui va là-bas dit qu'il aime ça. Il paraît que c'est très propre, c'est le cas,
Ouais.
tu t'as remarqué?
Ah, c'est fou, là. Il n'y a aucun papier par terre, rien. Puis les gens sont très carrés. Le bus, il part à 8 h, il part à 8 h.
Ouais.
C'est, ouais, très poli, très, ouais.
Bien élevé en général.
Ouais, vraiment.
Ah, ça fait du bien à entendre, c'est bien.
Ouais.
Puis pour conclure un peu sur le côté carabin, natation, est-ce que tu, durant tes années, est-ce que tu t'es lié d'amitié avec des gens? Parce que beaucoup de gens qui quittent les carabins disent que les carabins, c'est une famille. Je suis pas en train de faire de la publicité, là, mais disent que c'est une famille, puis que ça te marque à vie. Est-ce que toi, tu l'as vu comme ça?
Ouais, vraiment. Déjà, en tant qu'étudiante internationale, quand on arrive dans un nouveau pays seul, ça fait peur au début, c'est pas facile. Et d'intégrer directement une équipe sportive, ça crée un réseau social directement. T'es pas seul, t'as déjà des connaissances, etc. Et ça va vite. Et on se voit tellement tout le temps. On crée vraiment des liens très très forts. Et moi, la première année, j'ai créé des liens super forts avec plusieurs personnes. Ces personnes-là, justement, ont arrêté de nager à ma première année. Donc, j'ai créé d'autres liens avec d'autres personnes. Mais encore aujourd'hui, je les vois régulièrement. Et Et c'est aussi de là mon hésitation. Je rentre en France, je reste ici. Les amitiés qu'on crée à partir d'un certain âge, c'est vraiment plus fort que les amitiés qu'on a, mettons, secondaire. Donc, ouais, c'est sûr que ça joue dans la balance. Mais oui, très, très grande famille, beaucoup d'esprit d'équipe et ça fait vraiment une différence.
Excellent. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais saluer en particulier ou que tu voudrais remercier ici au terrain sportif pour leur remercier de t'avoir aidé, de t'avoir enduré, de t'avoir peu importe.
Mais en vrai, je pense que je remercierais tout le monde, toutes les personnes que j'ai croisées sur mon passage pendant ces 6 années, puis les personnes le savent, les amis que j'ai encore aujourd'hui, tous les coachs que j'ai eus, tout le staff des Carabins qui m'ont aidé dans plein de choses, que ce soit côté sportif, médical, administratif. J'ai justement eu l'occasion de faire un speech quand j'ai gagné l'athlète de l'année, et donc c'est ça, c'est vraiment, je remercie tout le monde pour tout ce qu'ils nous ont apporté, moi, l'équipe.
Oui, excellent. Et c'est vrai, tu as dû faire un speech devant tout le monde. Bon, on le sait, c'est pas toutes les athlètes qui
Non.
sont à l'aise avec les gens. Est-ce que ça t'a stressé un peu, ça?
Ben, en fait, c'est que je pensais vraiment pas gagner le titre cette année. Donc, je me suis dit, oh, ça sert à rien que je stresse. Là, parce qu'avant d'annoncer la personne, ils commencent toujours par énoncer le palmarès un petit peu. Et au fur et à mesure, j'ai vite compris que c'était moi. Et donc, oui, le stress est monté. Après, je pense que j'étais très réservée quand j'étais plus jeune et je pense que j'ai beaucoup grandi là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est toujours un stress, c'est pas agréable comme moment, mais je le vis beaucoup mieux que dans le passé.
OK, donc c'est pas comme le Ballon d'Or où est-ce que les joueurs savent à l'avance qui va le gagner.
Non, non, non,
Quand
c'est
t'étais
ça, c'était une
là-bas,
surprise.
c'est OK.
Ouais.
OK. Puis c'est spécial. Est-ce que t'étais la première athlète de l'année à monter ou c'était Jonathan Sénécal? Est-ce que c'était les femmes ou les hommes d'abord qui devaient?
Non, c'était moi. C'était
OK.
les femmes en premier, ouais. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de titres de données. J'étais
Oui.
déjà montée d'ailleurs sur scène pour l'athlète féminine en natation avec mon amie aussi. Donc, ouais. Mais c'est là, j'ai dû faire un speech à ce moment-là.
OK, fait que t'as pris beaucoup de médailles, de trophées. Excellent. Maintenant, on va y aller avec des petites questions sur toi personnellement. Plus, le monde de l'éducation. Moi, je suis enseignant, donc ça m'intéresse beaucoup, au secondaire, par contre. Maintenant, parle-nous un peu du monde de l'éducation. Pourquoi cette branche en particulier?
Je pense pas que c'est ben, très jeune. Moi, quand j'étais au primaire, je m'occupais déjà des petites maternelles. Ben, je me souviens, et à la garderie, les parents venaient les chercher. C'est moi qui prenais les affaires des petits. J'ai toujours aimé ça. Mais je me suis jamais, à part quand j'étais vraiment jeune, je me suis jamais dit que j'allais être enseignante au primaire. J'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, mais à la base, j'étais partie pour être neuropsychologue pour les enfants. Finalement, après mon bac en psychologie, j'ai vraiment adoré mon parcours, j'ai appris énormément de choses, mais je ne me voyais pas psychologue. Je pense que je suis quelqu'un de très sensible et j'aurais trop absorbé.
OK.
Et je pense que ça m'aurait nui plutôt, puis j'aurais peut-être moins pu aider les gens en retour. Donc, j'ai réfléchi là-dessus et je pense que c'était pas pour moi finalement. Et après, je me suis lancée en psychoéducation. Donc là, c'était le moyen de lier un peu ce que j'ai appris en psychologie et travailler avec des enfants, mais au niveau de l'éducation. Et là, il y a eu le Covid, donc j'ai dû rentrer en France, j'ai dû changer de programme. Et finalement, la maîtrise en éducation venait de se créer justement pour combler à la pénurie qu'il y a actuellement. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et ça fait quoi, 2 ans que je fais des remplacements occasionnels. Et depuis février, je suis en contrat dans une classe. Et je pensais pas que j'allais autant aimer ça, mais vraiment, j'adore.
Génial. Ben, tu sais qu'il y a une pénurie d'enseignants, donc
Ouais.
ça prend des enseignants. Est-ce que tu veux dire la commission scolaire dans laquelle tu travailles? Est-ce que
Je suis
c'est...
à la commission scolaire de Montréal.
OK. Excellent. Puis, pourquoi le primaire et pas le secondaire, le cégep?
Le primaire, parce que j'ai toujours voulu travailler avec des enfants, donc je ne me voyais pas aller au secondaire ou au cégep, mais aussi parce que je trouve que dès même 5e, 6e année, parfois ils ont déjà beaucoup d'attitudes. Et je pense qu'au secondaire ou même au cégep, ça doit être
OK.
plus intense.
Oui, non, c'est sûr, c'est chacun, il y a des avantages à chacun, mais il y a certaines
Ouais.
personnes qui sont mieux avec les plus jeunes et
C'est
d'autres
ça,
qui sont mieux
chacun
avec les
son truc.
ouais. Parce que secondaire 1, des fois, moi, je les vois comme des élèves du primaire. Fait que j'imagine que
Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, y a pas beaucoup d'écart non plus entre les deux, là. Genre, l'année d'avant, ils étaient en sixième année.
Ouais, c'est ça. Excellent. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Est-ce que tu avais un mot que tu voudrais dire? Saluer des personnes en particulier?
Ben, pas tant. J'ai remercié vraiment tout le monde que j'ai connu grâce au Carabin, mon parcours universitaire. Ils le savent, je vais pas faire des déclarations personnelles, là, mais ils le savent.
Ils vont se reconnaître. Parfait. Et j'ai oublié de te demander, pour pratiquer l'enseignement, t'aimerais mieux le faire ici ou t'aimerais mieux le faire du côté de Nice?
C'est toujours la question qui fâche. Depuis des années, on me pose toujours la même question et j'ai toujours la même réponse, j'en ai aucune idée.
Tu sais pas.
Non, je sais pas. J'aime beaucoup le système ici scolaire. Là, en plus, j'ai un contrat dans une école où j'adore les collègues, la dynamique, tout se passe vraiment bien. Après, c'est toujours la même chose. L'éloignement avec ma famille, c'est de plus en plus pesant. Donc, c'est vraiment à voir. Là, je sais que je suis encore ici pendant un an. Après, rien n'est sûr, je ne sais pas.
Parfait. Ben écoute, pense-y, puis nous, ben on a besoin de toi ici pour dans le milieu de l'éducation. On a besoin de gens dévoués et dédiés. Donc, Anaïs Arlandis, merci beaucoup de ton temps. On te remercie pour ce que tu as fait pour les Carabins et on te souhaite une bonne chance pour la suite.
Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ton temps.
Merci, ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
De retour sur les ondes de CSM et CFAC à l'émission Le Terrain Sportif, l'émission annuelle qui parle et qui parlera et qui parlait bien entendu d'actualité sportive. Et comme vous l'avez vu, on donne des entrevues, on donne la parole à des athlètes bien entendu qui sont moins connus dans le monde sportif. En l'occurrence ici, c'était une athlète universitaire qui a terminé son parcours avec les Carabins, Anaïs Arlandis. Et donc, on la remercie énormément. Et trois chansons qu'on vient d'écouter, notamment la dernière, là, une chanson un peu de trance, The Reason de Eric Prydz. Puis avant ça, eh bien, c'était deux chansons de nouveautés francophones. L'air était si doux d'Ambroise et où est passé mon contour de Sandra. Contour ici sur les ondes de CSM et de CFAC, les radios universitaires. CFAC, le 89,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, et le 89,3 CSM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, chers auditeurs, chères auditrices. Donc maintenant, on va y aller tout simplement avec le reste de l'émission. Il ne reste plus beaucoup de temps. On va parler notamment du CF Montréal, puisque ça a commencé. Ça a très mal commencé. Le début de semaine, on le sait, là, avec le CF Montréal qui a perdu mercredi soir contre Forge FC. Forge FC, c'est une équipe de Hamilton, c'est une équipe de la Canadian Premier League. Et donc, c'est une équipe là, de la deuxième division, c'est dans la division inférieure du CF Montréal, avec une masse salariale beaucoup plus petite. Et puis, au match aller, le CF Montréal avait fait 1 à 1 du côté d'Hamilton, ce qui est quand même, ce qui n'était pas un excellent résultat, mais c'était quand même un bon résultat dans les circonstances, avec une équipe dans laquelle il y avait quelques joueurs qui avaient notamment été titulaires, qui ne jouent pas d'habitude. On peut penser à Rida Zouir, on peut penser à Ilias Iliadis, on peut penser également au gardien Sébastien Breza et à Ousmane Djabang. Et donc, avec un résultat de 1 à 1 à l'extérieur, le but à l'extérieur compte beaucoup. Donc, s'il y avait eu 0-0 au Stade Saputo au match retour, eh bien, le CF Montréal aurait été qualifié puisqu'il avait marqué un but à l'extérieur du côté d'Hamilton. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça pour le CF et ça a très mal commencé avec un but à la 14e minute de le numéro 17, Daniel Parra, et à la 24e minute, un but de Kwasi Poku qui faisait 2 à 0. Et à ce moment-là, le CF Montréal devait marquer 3 buts pour espérer se qualifier pour les demi-finales du championnat canadien. À la 66e minute, Wanyama, le joueur désigné, bien entendu, qui joue très peu, a fait 2 à 1. Et après ça, le CF Montréal a dominé toute la deuxième mi-temps, mais malheureusement n'a pas pu trouver le fond du filet. Parmi cette équipe-là, beaucoup de joueurs qui ne sont pas titulaires d'habitude ont joué ce match-là. Breza dans les buts, Zouir, Wanyama, Iliadis, Yankov. Et malheureusement, la première période, elle a été catastrophique pour le CF Montréal et surtout le match d'avant ça, on parle là du 18 mai, c'était à Toronto. On connaît la rivalité Montréal-Toronto, c'est vrai au hockey, Mais si c'est aussi vrai au soccer, et sans trop faire la langue de bois, là, on peut dire que même si le hockey c'est le sport national au Québec, au Canada, le fait est que de l'ambiance dans un match de soccer est vraiment plus intense que dans un match de hockey. Et le CF Montréal se devait de mieux performer contre Toronto à Toronto. Ils ont perdu 5 à 1. Ça aurait pu être vraiment pire en plus, puisque là, il y a beaucoup de buts qui ont été marqués lors de la première mi-temps. Honnêtement, si Toronto marque 7 buts durant ce match-là, il n'y a pas scandale. C'était 3-0 à partir de la 19e minute et ça l'a même été jusqu'à 5-0 à la 59e minute avec le triplé de Bernardeschi, l'Italien qui jouait avec la Juventus avant. Et Ibrahim Sounoussi a fait 5-1 du côté de Toronto. Donc quand on regarde le calendrier du CF Montréal, là, la dernière victoire du CF Montréal, c'est le 13 avril contre Cincinnati, 2-1. Depuis cette date, le 20 avril, 2-2 contre Orlando à domicile. Avec, bien entendu, une égalisation en fin de match pour Orlando. On s'entend que le CF Montréal aurait pu facilement gagner ce match-là. Columbus à l'extérieur, 0-0. Donc là, c'était quand même des bons résultats. Mais depuis le 4 mai, eh bien là, ça va très mal. Puis on sait, les matchs se sont enchaînés. Défaite de 4-1 contre Nashville. Défaite de... match nul de 1-1 le 7 mai du côté de Hamilton contre Forge FC. Défaite de 3-2 contre l'Inter Miami à domicile, alors que le CF Montréal menait par 2-0 et se fait égaliser avant la mi-temps pour revenir à 2-2. Ensuite de ça, contre Columbus à domicile, 3-1 pour Columbus. Et Toronto, 5-1. Et là, la défaite contre Forge FC à domicile, 2-1. Donc, on peut le dire, le CF Montréal connaît une crise. D'ailleurs, les Ultras qui mettent l'ambiance pendant ce match-là contre Forge n'ont pas chanté toute la première mi-temps, un peu pour faire connaître leur mécontentement. Puis d'ailleurs, dans ce match-là, il y a eu des éclairs, des orages, donc le match a été retardé. Finalement, il s'est terminé à peu près vers 11h, 11h30, je ne me rappelle plus trop. Je suis resté jusqu'à la fin, bien entendu. Donc, ça a été une catastrophe. Ça a été une semaine très mauvaise pour le CF Montréal. Et là, on va parler également du match contre Nashville, puisque ça se passait samedi dernier, le 25 mai. J'ai préféré commencer par le championnat canadien, parce qu'on le sait, le CF Montréal peut compétitionner sur 3 tableaux, dans 3 compétitions. Il y a bien sûr la MLS, la Major League Soccer, qui contient que des clubs américains, sauf Montréal, Toronto et Vancouver. Donc ça, c'est la première compétition. Il y a également la League's Cup, qui contient les clubs mexicains, canadiens et américains. Ça va se passer dans le mois de juillet. C'est une compétition très importante, mais on s'entend que c'est très difficile de la gagner. Peut-être moins que la MLS, mais c'est quand même très difficile de gagner ça. Et il y a le championnat national, donc le championnat canadien du CF Montréal, de Toronto, de Vancouver, des équipes de 2e et 3e division comme le Saint-Laurent, club de soccer Saint-Laurent, d'ailleurs qui ont perdu 8-1 du côté de Toronto, là, malheureusement. Ça, c'est une autre histoire. On en parlera dans une émission plus postérieure, bien entendu. Et c'est la façon la plus facile pour un club canadien d'aller chercher un trophée. Et on sait avoir des trophées pour le CF Montréal, ça se fait rare ces temps-ci. C'était un objectif très important du début de saison. Et non seulement tu gagnes un trophée si tu gagnes le championnat canadien, mais également tu te qualifies pour la Ligue des champions de la CONCACAF, qui est la meilleure compétition continentale auquel un club peut aspirer. Et donc, voilà, malheureusement, le CF Montréal est éliminé. Et concernant le match, bien entendu, samedi soir en direct du stade Saputo, auquel j'ai assisté dans la galerie de presse, comme chaque samedi lorsqu'il y a match, ou des fois mercredi. Prochain match, en passant, c'est mercredi soir contre DC United au stade Saputo. Les billets sont disponibles toujours sur le site internet du CF Montréal, vous pouvez trouver ça. Eh bien, il y avait un match samedi dernier, ça se passait contre Nashville, et ça s'est terminé 0-0. Donc, pas une défaite pour le CF Montréal, mais honnêtement, en termes de jeu, ça n'a pas été le plus beau match de tous les temps. Au niveau défensif, ça a été solide, mais du côté des deux équipes, là, tant du côté de Nashville que du CF Montréal, il manquait beaucoup de punch offensif. Et il faut le rappeler, là, côté CF Montréal, Opoku n'est pas là, Martinez et Coccaro ne sont pas là. Et ce sont probablement les trois meilleurs joueurs offensifs de l'équipe, avec bien entendu Ariel Lasseter, selon moi, qui fait toujours bien, surtout quand il joue dans l'attaque pour le CF Montréal, même quand il joue comme piston, c'est-à-dire qu'il travaille même en défense et en attaque. Et donc 0-0, il n'y a pas eu vraiment d'occasion énorme pour le CF Montréal. Waterman a été élu joueur du match par les fans, c'est dire. Et il a sauvé une occasion de but en or de Sam Surridge suite à une erreur de Jonathan Sirois. Mais mis à part ça, ça a été un match qui s'est terminé par 0-0. Le stade était quand même plein. Donc les gens sont toujours fans, les gens supportent l'équipe même quand elle va mal. Et ça, ça a été une nouvelle très rassurante pour le CF Montréal. L'équipe ne s'est pas vraiment faite huer un peu à la fin du match, mais ça n'avait rien à voir là, avec le match de mercredi contre Forge. Et il faut le dire aussi que Nashville était dans environ dans le même coin au classement que le CF Montréal avant ce match-là. Et donc, c'est un match à ne pas perdre pour les deux équipes parce que les trois points auraient été bons pour le CF Montréal, oui. Mais zéro point, c'est pas bon, mais c'est pas non plus catastrophique, si on peut dire ça comme ça. Puis d'ailleurs, on va écouter les entrevues de Jonathan Sirois et également Fernando dans les prochaines minutes, prochaines secondes d'ailleurs. Et juste pour vous donner un petit point au classement maintenant dans l'Est pour le CF Montréal, eh bien, qu'est-ce que ça donne dans l'Est? Dans l'Est pour le CF Montréal. Premier, Inter Miami avec 34 points. Ils ont perdu d'ailleurs du côté ils ont gagné du côté de Vancouver 2-1. Mais pour les fans de Vancouver, ni Bousquet, ni Suarez et ni Messi étaient présents. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas là avec l'équipe. Ils n'ont pas fait le voyage. Ils sont restés du côté de Miami ou du moins ils n'étaient même pas sur le banc. Jordi Alba, lui, a joué tout le match. Donc au moins, ils ont pu voir ça. Donc les fans de Vancouver étaient un peu déçus par rapport à ça. Mais on se doutait quand même là, qu'un très long déplacement comme ça à l'autre bout, en fait, c'est le déplacement le plus loin, je crois, de toute la Ligue. C'est le déplacement le plus loin que peut faire l'Inter de Miami, c'est-à-dire aller jouer à Vancouver, donc dans l'Ouest canadien, complètement près de l'océan Pacifique. Eh bien, Messi, Suarez et Bousquet n'étaient pas là. Ils ont gagné 2-1 avec des buts de Campagna et Taylor. Gold avait réduit l'écart à 2-1 à la 72e minute. Et donc, victoire de l'Inter Miami 2-1 du côté de Vancouver. Puis c'est un match important, là, surtout le gagner sans Messi, sans Suarez, sans Bousquet, c'est génial pour eux. Donc, premier, Miami, 34 points. Deuxième, Cincinnati. Troisième, New York City. Quatrième, Columbus. Cinquième, Red Bulls avec 23 points. Sixième, Toronto avec 22. Charlotte, septième avec 22 points. Huitième et neuvième, Philadelphie et DC United avec 18 points chacun. Donc, le neuvième rang, celui qu'occupe DC United à l'heure actuelle, est le dernier poste au classement qui peut donner accès aux séries éliminatoires en termes de barrage. Dixième, donc à l'heure actuelle, le premier non qualifié pour les séries, Orlando avec 16 points. 10e Orlando avec 16 points, 11e Nashville avec 16 points, 12e Atlanta avec 13, Montréal 13e avec 13 points, Chicago 14e avec 11 points et la Nouvelle-Angleterre avec 7 points, dernier au classement avec 2 à 3 matchs de jouer, bien sûr, de moins que presque toutes les équipes en ce qui concerne la Nouvelle-Angleterre. En termes d'attaque, le CF Montréal a marqué 17 buts en 14 matchs et a concédé 31 buts en 14 matchs. C'est tout simplement là la pire défense de toute la conférence de l'Est. L'autre équipe qui a accordé le plus de buts que le CF Montréal, eh bien, c'est 27 avec Chicago, puis ils ont joué un match de plus. Donc voilà en ce qui a trait au CF Montréal. Maintenant, on va écouter les entrevues de Fernando Alvarez et Jonathan Sirois. Et après ça, on s'en va en musique.
Bonsoir Jonathan, merci pour ton temps. Est-ce que ce soir, vous considérez personnellement que c'est un bon résultat pour votre équipe ce soir, le 0-0?
Je pense que c'est mitigé parce qu'à domicile, on est conscient qu'on doit récolter plus de points. Je pense que c'est la réalité des choses en MLS. Donc, d'abord ce soir, on aurait voulu ressortir avec les 3 points. Je pense que c'est quelque chose qui était également possible. Si on prend en compte aussi la situation dans laquelle on est en ce moment, parce que dans les derniers matchs, on a juste enchaîné les défaites, je pense que c'est quand même positif de ressortir d'ici avec une 2. Mais on peut quand même être un peu déçu de ne pas être sorti de 5 et 3 points avec les chances qu'on s'est créées.
Merci. Hi, good evening. Thank you for your time. I was wondering, what are your thoughts on your team's performance tonight here?
A really tough game. We play against a really good also the latter souls, you know, how was it? So being the best thing that we can do this game was come back to the basics, you know, like try to set first the mentality that we want, because I think that mentality that we showed today, we showed the second half, and I think we have to start from there and then try to push them. But yeah, I mean, we were working really good. The coach were trying to give us all of him, so it's really tough to get these results when you're working that good, because honestly, inside of the team, it was really difficult, this feeling the last weeks, because we were working a lot, and getting that results, it was not easy, but we were ready to show the face that we want, that you look, like that mentality. At least, if you're not playing good, you have to go and fight all the game, win every battle. That was the main target today. Everyone win the battle against the other. So I think that was the good performance that we made.
Thank you.
C'était l'excellente chanson Sans toi ni loi de Lemon Grab, nouveauté francophone ici à CSM et à CFAC. Donc voilà, c'est ce qui met fin à l'émission. Il nous reste quelques petites informations juste pour vous parler un peu de l'Alliance de Montréal. L'Alliance de Montréal était en action. Deux fois, ils ont joué deux matchs là avant aujourd'hui. Malheureusement, ça s'est soldé par deux défaites. Ça se passait du côté de l'Ouest canadien, défaite de 96 à 90 contre Saskatchewan. Et avant ça, leur premier match de la saison, défaite de 95 à 75 contre les Fraser Valley Bandits. Ça, c'est dans la région de Vancouver. On va en parler la semaine prochaine, là, puisque le premier match de l'Alliance de Montréal aura lieu. Et donc, on parlera longuement de cette merveilleuse équipe concernant basketball montréalais, puisque peu de gens le savent, mais la ville de Montréal a une équipe de basketball, et puis elle est très bonne, et puis surtout, elle est très populaire, donc c'est quand même intéressant d'encourager cette équipe-là. D'autres petits résultats côté Coupe européenne, le Bayer Leverkusen a remporté la Coupe d'Allemagne, le PSG a remporté la Coupe de France, le FC Porto a remporté la Coupe du Portugal, Manchester United a remporté la Coupe anglaise en battant Manchester City 2-1. Et donc, voilà pour les coupes généralement. Et c'était le dernier match également de Toni Kroos du côté du Real Madrid, lui qui va prendre sa retraite internationale et sa retraite du soccer après l'Euro qui va se passer dans son pays. D'ailleurs, ça va se passer du côté de l'Allemagne. Évidemment, au hockey, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les Rangers ont pris les devants, deux matchs à un contre les Panthers avec une victoire en prolongation de 5-4 avec un but de Wenberg. Et côté Oilers et Stars, eh bien, la série est égale, un match à un, et ça va se porter du côté de Edmonton, et ça va être ce soir à 20h30. Voilà, c'était Wissam Bensta au micro pour CSM et CFAC au terrain sportif. J'espère que vous avez aimé cette émission. On vous souhaite une excellente semaine et soyez prudents. Au revoir.